RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Wimbledon 2026. Jeudi noir, crash à Wall Street, crash sur le gazon de Wimbledon. Le tennis français a encaissé un 6-0 qui fait mal au crâne, bien sûr. Il y avait effectivement 6 bleus qui étaient au programme de cette quatrième journée. 6 bleus, pas un n'est parvenu à franchir l'obstacle qui lui était proposé. Alors vous allez me dire, il y en avait 5 qui jouaient en perf, donc fallait peut-être pas s'attendre à des miracles. Oui, certes, mais quand même, on aimerait bien que de temps en temps, un bleu craque un petit exploit. Ça n'a pas été le cas. On va commencer par le joueur français qui, sur le papier, était le plus fort, même si tout est relatif hein, sur gazon, parce qu'il y a des spécialistes de gazon qui font peur. Et c'était le cas de Matteo Berrettini, donc qui était l'homme qui se dressait devant Arthur Fils sur le central, une affiche qui avait séduit les ordinateurs, puisque cette rencontre était sur le center court. C'était d'ailleurs une première pour Arthur Fils. Et j'en parlais hier hein, dans le podcast en évoquant Arthur Hinderknecht. C'est un cours où il faut prendre ses repères. Il n'est pas comme les autres. Il y a un recul qui est différent. Oui, c'est pas du tout comme le cours 15 ou le cours 17 ou le cours 14. Il faut s'approprier cet espace. Et Berrettini, en tant qu'ancien finaliste en 2021, bah, il connaissait ce cours, hein, même si bah, je crois que depuis la finale, on ne l'a pas revu sur ce cours. Arthur, lui, a dû faire avec les moyens du bord. Il n'était pas dans un grand jour, certes, mais quand on regarde le score, vous allez me dire que bah, c'est assez net, il n'y a pas photo. 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, oui, mais ça se raconte parce que Arthur a eu des occasions, a eu des opportunités. Bon, il a dû déjà régler le problème du service de Berrettini qui était vraiment extraordinaire aujourd'hui. Gros pourcentage de première, beaucoup de variations dans les zones. Une balle qui va très très vite et Arthur a jamais vraiment trouvé la solution, même s'il s'est procuré 6 balles de break au total, il n'en a fait qu'une. Berrettini, lui, s'en est procuré 6, il en a fait 3. Donc vous voyez, la différence, elle se fait notamment là. Berrettini, pour vous montrer aussi sa puissance au service, son efficacité, sur 119 services, 52 ne sont pas revenus. 52 ont atterri hors du cours ou dans le filet ou n'ont pas été touchés par Arthur Fils. Donc c'est vraiment une stat énorme. Et Berrettini s'est appuyé sur ce coup. En plus de ça, il a posé d'énormes problèmes aux Français avec son slice de revers qui est absolument extraordinaire. Moi j'ai l'impression qu'il utilise une planche à découper le Ramon tellement c'est sharp, quoi. Ça glisse sur le gazon londonien. Ça frôle le filet, c'est un coup vraiment étonnant de la part de Berrettini. Alors effectivement, quand on l'agresse côté revers, il a du mal à sortir le passing de revers à deux mains, mais quand il n'est pas en danger et qu'il fait sa petite cuisine, c'est vraiment un enfer pour Arthur Fils, parce qu'il faut plier les jambes, parce que tu ne peux pas accélérer dessus, que ce soit en coup droit ou en revers, et combien de fois Arthur est parti à la faute là-dessus. Et c'est vrai que globalement, il n'était pas follement satisfait de lui, ce qui est normal, surtout après une défaite. Mais il faut reconnaître qu'il faut accorder beaucoup de crédit à l'Italien. À 30 ans, il a encore de beaux restes et on sent qu'il adore le gazon. On sent que c'est un tournoi qui lui tient à cœur, puisque l'année suivante, sa finale, il avait dû déclarer forfait puisqu'il avait été positif au Covid. Et ça avait été la mort dans l'âme qui s'était retirée. On sait qu'à Roland-Garros, il jouait très très bien. Et il avait été contraint à l'abandon contre Arnaldi, blessé à la cuisse. Finalement, c'était pas si grave que ça. Et il a pu revenir pour Wimbledon. Mais vraiment, c'est un garçon qui est étonnant sur herbe et ultra puissant. C'est un bison. C'est pas pour rien qu'on le surnomme un peu le marteau. Donc, Berrettini. En 4, je vous propose d'écouter la réaction d'Arthur Fils. Je vous ai fait une petite compilation, un petit montage de sa conférence de presse. Il est venu très tard à la rencontre des journalistes puisqu'il avait un contrôle antidopage. Et j'avoue que ouais, c'était extrêmement long. Mais voilà, ce sont les contraintes des joueurs professionnels. Hein. Vous ne pouvez pas échapper à un contrôle antidopage. Et parfois, quand le pipi vient pas, bah, ça retarde d'autant la montée au centre de presse. Donc Arthur Fils qui analyse cette élimination.
C'est sûr qu'il connaît plus, il est plus habitué à ce genre d'événement que moi. Jouer sur un central, oui, mais jouer sur gazon aussi. J'ai dû faire une bonne quarantaine de matchs sur gazon, j'ai dû en jouer peut-être une dizaine. Donc il y a pas mal de petits réglages à trouver encore. Après voilà, c'est une défaite qui va permettre de grandir, ça va me faire du bien je pense. C'est pas facile à avaler maintenant, mais c'est des choses qui arrivent, il faut repartir au combat et puis voilà. C'est vrai que c'est un beau terrain, c'est un beau cours. J'avais plutôt bien abordé, j'ai plutôt bien débuté la partie, j'ai eu une balle de break d'entrée, enfin, c'était pas mal. Après, j'ai pris un peu de temps à m'habituer à sa vitesse de balle, à son service. Puis je pense que lui, enfin, il joue très très bien, notamment sur le gazon, il sait comment jouer dessus. Et il m'a eu avec quelques petits coups, des bons retours, moments importants. Voilà, il a fait un très très bon boulot, il a très bien joué. C'est une défaite qui va me permettre d'apprendre plus sur moi-même. C'est un très bon serveur. Les zones, c'est une chose. Après, il y a la vitesse aussi. Puis il y a son lancer, c'est toujours le même lancer. Il peut un peu tout faire, donc c'est pas facile. Et puis après, je pense que... Avec plus de matchs dans les pattes, il y a peut-être quelques balles que j'aurais pu remettre. J'aurais pu faire jouer un coup de plus. Aujourd'hui, j'ai pas réussi. Ouais, je savais pas trop où me positionner. Après, ça, j'ai mal géré. Il a très bien servi, mais ça, c'est un peu plus mon erreur. Je me suis positionné un peu entre deux. Soit pas assez agressif, soit pas assez défensif. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu mieux faire au retour. Enfin, il y a pas mal de retours qui m'échappent. 5-3, 0-3 de retour en coup droit. 15-30 retours de seconde, pas mal de retours qui m'échappent et qui normalement ne m'échappent pas, mais c'est comme ça.
C'est vrai qu'il le dit lui-même, hein, le retour de service c'est plutôt un de ses points forts et aujourd'hui bah, il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'occasions perdues, beaucoup de 0-30, de 15-30 où il n'a pas su sortir le coup décisif. Il y avait forcément un manque de rythme. Un match, ça suffit pas. Et puis aussi un gros déficit d'expérience, puisqu'on quand on a préparé cette rencontre, on s'est rendu compte quand même que Arthur n'avait joué que 12 matchs sur gazon, alors que notre ami italien, lui, il était à 55 matchs sur gazon. Donc c'est une énorme différence. Et même si Arthur a d'énormes qualités, l'expérience, ça s'acquiert. Donc ce sera pour l'an prochain. Mais l'avantage, au moins, c'est que tous les clignotants, tous les voyants sont au vert concernant son corps. Moi, on était tous inquiets après son forfait à Roland-Garros. Il y a eu un petit passage chez son docteur à Munich. Donc on a trouvé sûrement des solutions, même si sur ce sujet-là, il ne veut pas s'étendre. Mais il a pu être compétitif pendant, on va dire, 15 jours, une dizaine de jours où il a pu s'entraîner normalement, a pu faire un match officiel contre Collignon il y a deux jours, mais le deuxième match, c'est souvent le plus dur, hein, parce que voilà, t'as des douleurs forcément qui apparaissent, et aujourd'hui, bah, il a manqué trop de choses pour prétendre renverser Matteo Berrettini, qu'on retrouvera au troisième tour contre un adversaire qui lui ressemble un peu, puisque Berrettini a souvent été handicapé par les blessures. Bah, son adversaire de samedi, ce sera Grigor Dimitrov, et lui, bah, c'est un cas tout à fait spécial, puisque l'an passé, il y a un an, il s'était blessé gravement au pectoral alors qu'il était en train de faire beaucoup de mal à Yannick Sinner de 7-0. Et puis cette blessure terrible qui l'a mis sur le flanc pendant très longtemps. Et on rappelle qu'il est là grâce à une wildcard, mais bon, on voit bien que les Anglais ont du cœur quand même. Hein. Mais ça nous promet une affiche assez sensationnelle entre deux garçons qui sont très très appréciés du public, parce que justement ils ont connu des coups durs dans leur vie. Mais Dimitrov a une cote d'amour assez incroyable. On l'a vu ce soir, il a battu Mensik en fin d'après-midi. Ça s'est même fini sous le toit. Victoire en 4 face au fauteuil tchèque, tête de cible numéro 15. Et le cours numéro 1 lui a réservé une ovation qui est absolument fantastique. Il avait presque la larme à l'œil, le bulgare, parce qu'il ne pensait peut-être pas retrouver un tel niveau aussi vite. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était dans un challenger à Dublin. Il avait perdu contre Kieran Jacquet. Mais là, c'est la magie de l'endroit. Il veut tellement offrir au public le meilleur sort de sa raquette. Et, Et franchement, cette victoire face à Mensik, elle fait plaisir à tout le circus, à tous les suiveurs du tennis international, parce que voilà, Dimitrov, personne n'a oublié sa mésaventure. C'était un crève-cœur. On se souvient qu'il y avait même Federer qui était dans les tribunes ce jour-là, et il avait mal pour son pote. Mais bon, peut-être que cette année, il y aura un exploit du Bulgare, mais ça va passer par un gros match contre Berrettini. C'est vraiment un troisième tour qui se déroulera d'ailleurs peut-être sur le central, parce que quand on regarde les autres affiches, je pense que ça mérite le central. Voilà, c'est mon avis. Ça, on aura la réponse plus tard. Parler donc de la série noire des Français, on va les décortiquer un à un. On va commencer par Valentin Royer. Valentin Royer n'avait pas eu de chance puisqu'il était dans la zone de Zverev. Il a joué l'Allemand sur le court numéro 1, défaite en 3-7, 6-1, 6-3, 7-6. Le 7-6 sauve un peu l'honneur parce que pendant très longtemps, Valentin Royer était vraiment dans le dur, comme on dit. Et en conférence de presse, il est cash et il n'était pas content du tout de sa prestation.
En fait, je suis rentré sur le court avec une mentalité très simple, c'était un peu de le choquer, entre guillemets, de m'encourager dès le début, d'y aller. Je l'ai pas fait, parce que j'en mettais partout, je faisais que des fautes directes, il n'y avait pas un échange en fait, pas un échange. À un moment donné, alors c'est pas la meilleure chose à se dire, mais à un moment donné, je me dis, mais le public il est là, mais il s'ennuie quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des fautes directes, pas un échange. Je suis pas là pour jouer pour la galerie, mais enfin c'était... À un moment donné, il y a un oiseau qui arrive sur le court au premier set. Puis là, c'est le highlight du premier set en fait. C'est l'oiseau qui venait sur le court, quoi. Et il y avait rien en fait. Il y avait rien dans les jambes, rien dans le bras. C'était vraiment, vraiment pour moi une performance pathétique. Vers le début du troisième, mais à part ça, c'était vraiment très moyen, quoi.
Ah oui, l'ai entendu. Il est sans concession, mais bon, c'est une manière d'avancer aussi, hein. Vaut mieux entendre de tels discours plutôt que des garçons qui disent « Oh, je suis pas passé loin, ça s'est joué à pas grand-chose, j'ai manqué de réussite. » Il va retourner sur terre battue, hein, c'est ce qu'il nous a dit avant de partir ensuite aux États-Unis. Toujours dans cette section de tableau, Quentin Alice, au lendemain de sa victoire contre Matteo Arnaldi, n'a pas pu confirmer, battu par l'Américain Marco Giron, 92 mondial, mais qui vaut beaucoup mieux sur surface herbeuse, rapide. Il a un style de jeu qui convient mieux au gazon, je trouve, parce que des frappes très ultra tendues. Et voilà, une fois qu'il a pris le score 7-6, il a déroulé 6-3, 6-4 derrière. Donc terminé pour Quentin Alice, qui va pouvoir maintenant jouer un peu plus libéré, puisque je vous l'ai dit, hein, il a 0 point à défendre lors du deuxième semestre. Donc il va pouvoir tranquillement monter au classement et pourquoi pas signer des belles perfs dans les tournois sur dur. Adrien Manano, lui, a joué en début d'après-midi contre Alex de Minaur. Alors, vous savez que Manano n'aime pas connaître ses adversaires, et donc il l'a appris peut-être une heure avant. Et là, franchement, il a tiré un peu la tronche, parce que c'est vrai que de Minaur, c'est une sorte de miroir, c'est un mec qui fait tout mieux que lui, et ça s'est vu au score, 6-3, 6-2, 6-2, peut-être qu'il aurait pu battre 5-6 mecs dans la moitié de tableau, mais pas lui, mais pas De Minaur qui l'avait déjà battu à Zertogenbosch en demi-finale, qui a confirmé tout son talent. Sur herbe, il est dur à jouer, De Minaur, et au prochain tour, il jouera Zachary Zvajda, qui s'était déjà distingué à Roland-Garros et qui confirme donc son immense potentiel. Parmi les autres matchs importants, moi, vous le savez que j'ai un petit faible pour les Américains. Je ne sais pas, je me dis que ça peut être leur année. Mes boys sont encore là. Taylor Fritz a tranquillement éliminé son compatriote Patrick Gibson, 6-2, 6-2, 7-5. Ça passe aussi pour Frances Tiafoe, qui a lâché un set contre l'Anglais Jan Schonsky. Il jouera Bublik au prochain tour. Bublik qui a éliminé Kieran Jacquet, qui était le dernier Français en lice dans la journée. Il a joué très tard sur le court 14. Il perd en 3 avec un petit regret puisqu'il mène 4-1 en deuxième, mais il n'a pas pu enrayer le retour, la réaction du Kazakhstanais. Donc Tiafoe Bublik, c'est une belle affiche. Et puis un mot sur Rodar, qui lui est dans le haut de tableau, mais il a fini son match contre son compatriote Karen Obusta, victoire en 5 finalement, et Rodar donc qui sera opposé ce vendredi à Shintaro Mushizuki, un japonais qui, si mes souvenirs sont bons, avait gagné Wimbledon Junior, donc c'est un garçon qui aime beaucoup l'herbe. On va passer donc au tableau féminin. Il n'y avait plus qu'une Française en course, c'est Léolia Jean-Jean. Et lorsqu'on l'avait rencontrée il y a 2 jours, elle craignait beaucoup Daria Snigur, qu'elle connaissait. l'Ukrainienne, qui sortait d'une victoire contre Elena Svitolina, s'est imposée malheureusement en deux manches. Donc terminus pour Léolia Jean-Jean, qui ne réintégrera pas le top 100 à l'issue de ce Wimbledon. Bon, c'est pas sa tasse de thé le gazon, mais quand même, le bilan est plus que correct, puisqu'on me rappelle qu'elle sortait des qualifs et qu'elle a gagné un tour. Donc voilà, ça lui permet quand même de prendre pas mal de points ici sur le gazon londonien. Il n'y a pas eu de surprise notable lors de cette journée, à l'exception de l'élimination de Diana Schneider, sortie par Ludmila Samsonova, tête de série 15, hein, la demi-finale de Roland. Donc elle ne confirme pas. Sinon, les autres sont passés sans problème. Iga Świątek, Madison Keys, Elena Rybakina, qui cette fois-ci n'a fait qu'une bouchée de Katie McNally. Et puis Emma Navarro, qu'on suit de près, et Marta Kostiuk. Un mot sur Maya Joint, qui avait battu Serena Williams, donc... au premier tour, eh bien, c'est terminé pour l'Australienne. Elle est tombée sur plus forte, en l'occurrence Alexandra Ehala, qui a marqué l'histoire, puisque c'est la première fois qu'une joueuse des Philippines atteint le troisième tour d'un grand chelem. C'est une fille gauchère qui a vraiment un tennis très agréable, et ça va donner un petit match sympa au troisième tour contre Iga Świątek, la tenante du titre. Je pense que la Polonaise peut craindre ce match. Oui, j'ai oublié de vous parler d'Amanda Anisimova, qui aurait pu passer la trappe, mais finalement elle s'en est sortie 7-6 au troisième set, donc contre Sofia Kenin, qui reste dangereuse, mais qui reste quand même assez dure à lire. C'est une fille qui est capable du meilleur comme du pire, et là, elle s'est un petit peu écroulée dans le super tie-break du troisième. Donc Amanda Anisimova qualifiée, mais alors attention, elle aura un tour ô combien difficile samedi, puisque en face d'elle, il y aura Madison Keys, qui n'est que tête de série numéro 26. Mais oui, c'est pour ça qu'elle se joue aussitôt, tête de série 6 contre 26. Ça, c'est une belle affiche, et je pense que ça peut mériter le central. Oui, je suis un peu le programmateur en même temps. Donc voilà, pour cette journée noire... histoire de remuer le couteau dans la plaie, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais... il ne nous reste plus qu'un Français en course, hein, donc c'est Arthur Hinderknecht, donc un bleu au troisième tour. C'est vraiment un bilan famélique, mais on avait fait pire en 2021, puisqu'il y avait zéro tricolore au troisième tour, tableau féminin et masculin confondu. La France devient une petite nation. Il va falloir réagir très vite, parce que moi, j'ai cette statistique dans mon petit carnet qui me hante, à savoir que depuis l'Open d'Australie 2022, il y a, dans le tableau masculin, hein, là je parle, il y a, et c'était Gaël Monfils qui avait atteint l'écart, et bien depuis cet Open d'Australie 2022, pas un Français n'a pu atteindre les quarts de finale. 2022-2026, on est donc à série en cours, 17 chelems d'affilée, 100 Français en quart de finale. Vous me voyez venir, le numéro 18, on le voit venir à plein nez. Maintenant, évidemment... on ne va pas enterrer Arthur Hinderknecht, mais bon, vous avez vu le tableau. Il va s'attaquer vendredi à Novak Djokovic, tout simplement. Septuple vainqueur, qui a montré de très belles choses face à Stefanos Tsitsipas. Donc il va falloir que Arthur sorte le grand jeu. Il va falloir que Lucas Pouille concocte des plans tactiques de génie. Parce que s'attaquer à Novak Djokovic sur le center court, c'est quasiment mission impossible. En plus, il a apparemment, d'après ce qu'on a entendu, le Serbe avait demandé à jouer en diurne, parce que ça fait deux fois qu'il finit tard. Il a envie quand même de jouer dans les conditions normales, parce que on sait que les demi et les finales se jouent quand même en après-midi. Eh bien, il a eu gain de cause. Il va même ouvrir le programme ce vendredi contre Arthur Hinderknecht, donc notre dernier espoir ici à Wimbledon. On touche du bois, on croise les doigts. Mais c'est vrai que la marche est très très haute pour le Breton, même si il reste sur une victoire sur ce court mythique. C'était face à Sacha Zverev l'an passé. Victoire en deux jours, en 5-7. Et il nous avait raconté avec beaucoup de passion, même d'émotion, que les officiels lui avaient fait visiter le central, hein, la veille de son match face à l'Allemand, pour qu'il prenne ses repères. Et c'est une manière, selon lui, d'offrir un petit avantage aux outsiders, pour pas qu'ils se retrouvent un peu propulsés dans cette arène qui est absolument mythique. Ça, c'est le temple du tennis, et vous pouvez perdre vos moyens. Et quand je disais hier qu'on prend un set dans la vue, ben, ça s'est vu avec Arthur Fils aussi, hein. même s'il n'a pas pris un départ catastrophique, il s'incline que 7-5, mais quand même, tu es obligé d'avoir du temps pour prendre tes repères visuels sur ce center court de Wimbledon, le plus beau court du monde, à n'en pas douter. Voilà, ciao, on se retrouve demain.